pour prodiguer des premiers soins. Donc 14h56, les médecins militaires, ensuite 15h05, l'ambulance qui du coup commence une prise en charge. Donc 15h05, elle arrive. Avant que cette ambulance du SMUR arrive et ne le prenne en charge, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un véhicule du SDIS arrêté à 1 km de la mégabassine, sur la même route où du coup Serge attend. Et cette ambulance du SDIS, elle est arrêtée, et devant elle, il y a deux motocyclistes de la gendarmerie. Et cette ambulance n'avance pas. Le véhicule du SMUR, à 15h05, quand il arrive vers Serge, donc il dépasse cette ambulance sur la même route, ce véhicule du SDIS n'avance qu'à 15h15. L'équipe d'observation a des échanges du coup, avec les pompiers du coup, de ce véhicule du SDIS qui confirment qu'ils ne pouvaient pas avancer tant qu'ils n'avaient pas un feu vert. Il y avait la mégabassine, à peu près à 200 mètres, Serge, et ensuite à plusieurs centaines de mètres, un véhicule du SDIS à l'arrêt avec deux motocyclistes qui n'ont avancé qu'après qu'un ordre soit donné. Serge, il est blessé à 13h45, l'ambulance elle arrive à 15h05. Dès 14h01, l'ambulance du SMUR de Ruffec, en fait, elle s'engage pour venir chercher Serge. Les personnes qui sont autour de Serge ne sont pas au courant. Donc cette ambulance du SMUR de Ruffec, elle part à 14h01, elle ne va pas directement à Sainte-Soline, elle va d'abord vers Clucey-la-Pommeraye, le point de rassemblement des victimes, par lequel elle est obligée de passer. Elle doit attendre 20 minutes qu'on lui dédie une escorte de la gendarmerie pour ensuite enfin partir vers la mégabassine pour pouvoir prendre en charge ce blessé. Et l'ambulance du SMUR de Ruffec, c'est la première ambulance qui prend en charge un blessé, alors qu'il y a du coup, selon les organisateurs, environ 200 blessés, dont 40 graves à peu près. Donc ça, c'est le cas de Serge. C'est pas un cas isolé. Même dans les autres blessés les plus graves, il y a une longueur dans leur prise en charge qui est vraiment anormale. Et on a même du coup le cas de Michael, où le temps d'attente est tellement long que ce sont des manifestants qui doivent l'amener eux-mêmes à l'hôpital. La première ambulance qui atteint enfin un blessé, c'est parce qu'elle n'a pas respecté le protocole en fait, qui a été mis en place. Là, les extraits qu'on a des conclusions de l'enquête, il reste toujours beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'aléas aussi qui ne sont pas pris en compte, parce qu'on parle du fait qu'il n'y a pas eu de perte de chance pour les blessés. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas des personnes sur place qui ont prodigué des premiers soins? S'il n'y avait pas eu auprès de Serge une personne qui, dans la vraie vie, est médecin urgentiste, qu'est-ce qui se serait passé? Comment on peut laisser des personnes dans des états aussi graves attendre aussi longtemps les secours? On a quand même une personne qui, d'après les témoignages, avait la mâchoire explosée, qui a attendu pendant des heures qu'une ambulance vienne bien la prendre en charge. Ces questions-là, elles ne semblent pas être abordées par le rapport d'enquête. Nous, on pense que ça montre juste qu'il faut enfin une enquête indépendante, que l'enquête de l'IGGN n'est pas suffisante, qu'on a encore beaucoup de questions là-dessus.
Est-ce que les témoignages éventuels sont intéressants, encore pertinents à voir aujourd'hui?
Je pense que c'est important qu'il faut évidemment témoigner et pas laisser le silence s'installer là-dessus, quoi. Sinon, c'est complètement faire le jeu du pouvoir, en fait. Il y a 73 blessés au moins qui ont saisi la défenseure des droits. Elle mène son enquête et elle doit la rendre dans les 6 mois, normalement en février ou je ne sais pas quand.
Juste après Sainte-Soline, il y a eu une adresse mail qui a été ouverte, c'est témoignage Sainte-Soline. Et à partir de là, nous avons été plusieurs, et au départ, 70 personnes témoins. Il y a eu une saisine de la défenseuse des droits qui, elle-même, s'était déjà bien avant saisie des violences policières, ce qui avait pu se passer en banlieue il y a longtemps, ce qui avait pu se passer aussi avec les Gilets jaunes. Donc la défenseuse des droits a déjà un dossier très fort sur les violences policières. Elle s'est auto-saisie également des violences policières de Sainte-Soline, et nous l'avons, de notre propre chef, saisi aussi sur cette question. Il est toujours possible de porter vos témoignages. Il y a toujours, cette adresse existe toujours, témoignage Sainte-Soline. Bon, il faut savoir qu'il y a des personnes qui étaient à Sainte-Soline, qui ont été impactées bien sûr, et qui n'ont aujourd'hui pas encore pu poser les mots.
Question pour les amis de la LDA. Je voulais, à la publication du rapport, vous avez dit, et c'était peut-être pas les bons mots, mais qu'il n'avait pas été contesté. C'est un document à charge contre l'État et contre les mensonges du ministre de l'Intérieur de l'époque.
Pour expliquer le rapport, nous, on l'a vu comme un outil, en fait. On a fait des observations. On a fait un certain nombre d'analyses de ces observations qu'on donne au public, et donc après c'est au public de s'en saisir. Il était assez à charge parce que, donc, comme je disais, on avait quand même un certain nombre de questions et de constats sur place sur la nécessité de la force, la proportionnalité de la force, la prise en charge des blessés, mais aussi, par exemple, les quads tirent en roulant au LBD. Ils tirent en fait sur une chaîne d'élus et de manifestants qui protègent des blessés. Ils tirent sur toutes ces personnes-là et sur des blessés. Il y a beaucoup de points auxquels, du coup, les autorités n'ont pas vraiment répondu, en fait.
Le rapport, il n'a pas été attaqué. C'est-à-dire, s'il y avait eu de la diffamation, je pense qu'il y aurait eu une plainte pour diffamation. Donc, il n'y a eu aucune plainte. Donc, on peut considérer que ce qui est dedans est assez juste. En tout cas, suffisamment juste pour pas qu'il y ait de plainte. Par contre, la LDH a été très attaquée après. Le message ne peut pas être attaqué. Du coup, c'est le messager qui prend, quoi.
On a notamment été attaqué par Gérald Darmanin et Elisabeth Borne à l'époque. Donc Gérald Darmanin qui avait menacé de couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme et Elisabeth Borne qui avait renchéri en indiquant qu'elle ne reconnaissait plus la Ligue des droits de l'homme et qu'on était passé du mauvais côté. C'est vrai que sur le rapport en tant que tel, ça reste assez solide, il me semble, toutes les constatations qui ont été faites.
Ce rapport de la LDH, s'il n'était pas là, on ne serait pas à discuter là. Les plaintes auraient été classées sans suite depuis bien longtemps. Que c'est parce qu'il y a ce rapport et que c'est parce que vous êtes venus très très nombreux, nombreuses en observatrice qu'il y a ces données et qu'elles sont incontestables. Et il n'y a pas de réponse de l'État à ça parce qu'en fait, répondre à ça, ça voudrait dire admettre qu'il y a des violences policières et comme ils ne veulent pas le dire, bah, voilà, ils font un peu des autruches, quoi. Je pense qu'on peut dire ça.
Merci pour le travail.
Est-ce que quelqu'un ici peut faire le point sur la défenseuse des droits ?
Ce que j'ai compris de la défenseuse des droits, c'est que c'est une personne qui est désignée par le président de la République, c'est ça ?
Président de la République, oui. Ouais.
Qui est indépendante, mais dont les décisions ne sont pas contraignantes, et qui va produire un rapport au premier semestre 2026. On attend avec impatience, même si on sait bien qu'il ne va pas produire de contraintes particulières, quoi.
Par rapport au quad et au tir LBD, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une enquête administrative interne, l'IGGN qui mène son enquête. Ce que ça peut donner, c'est des blâmes, des machins, tout ça, en interne. C'est la maison gendarmerie ou police qui règle ses affaires elle-même, quoi. Voilà.
Je crois me souvenir que par rapport à l'histoire des quads, à l'enquête administrative qui avait été déclarée, ça a conclu à la légitime défense.
Julien Leguet, l'un des porte-parole de Bassine Non Merci.
Si on reprend bien le rapport de la LDH qui crée les premiers affrontements, les premières tensions, c'est bien cette équipe de quad qui vient à 1,5 km attaquer un cortège qui n'a commis aucune violence au niveau du bois d'Anières. Je pense qu'il y a vraiment un travail spécifique à mener vis-à-vis de cette brigade spéciale, les Bravem des campagnes. On a eu vent qu'au sein de la gendarmerie en tant que telle, le fait qu'il y ait cette intervention et cette brigade qui soit créée, ça passait pas très très bien. Là, on a vraiment affaire à des individus qui vont être facilement identifiables. 40 individus sur 20 quads. Ce qu'on a vécu à Sainte-Soline le 25 mars, c'est du ressort du terrorisme d'État. La définition du terrorisme, c'est quand on applique une politique visant à créer la terreur chez les cibles. On fera un petit état de ce qui est en cours. On a parlé de la plainte auprès de la défenseure des droits, de cette nouvelle plainte où les victimes vont pouvoir se faire porter partie civile avec un juge d'instruction dont on peut avoir le secret espoir qu'il soit plus indépendant qu'un procureur. On connaît les liens intimes entre le garde des Sceaux et un procureur. Darmanin, c'est pas Voldemort, on peut dire son nom. Le fait que un de ceux qui a participé très activement à la chaîne de commandement soit aujourd'hui garde des Sceaux, évidemment que ça pose des questions très profondes et qu'il n'y a peut-être pas grand chose à espérer de ce gouvernement-là, à cette étape-là. Mais j'espère que dans nos réflexions, on sera aussi axé sur cet angle-là. L'affront, il sera lavé, et puis on pourra se dire que notre démocratie, elle est à nouveau sur les bons rails. Le jour où il y aura de véritables investigations qui seront menées pour que les responsables, ceux qui ont près des salons de l'Élysée, à Beauvau, etc., établissent ces plans-là. Il faut être très très clair, et là-dessus, je vous invite à réécouter l'intervention de Darmanin devant une commission au Sénat, juste après Sainte-Soline, c'est là où il vient attaquer la LDH, bille en tête, etc. Et il vous parle très précisément des 2-3 réunions qu'il y a eu en amont de Sainte-Soline. C'est à cet endroit-là que les choix sont faits. C'est de donner de tels moyens armés, 9 hélicoptères, 4 blindés, des canons lanceurs d'eau, plus de 5000 bombes. Il est là, le premier choix coupable, parce que retournons sur les déclarations de Darmanin, à cette même commission d'enquête au Sénat, il met sur un pied d'égalité la protection des biens et la protection des personnes. Mais ça, c'est coupable. Si aujourd'hui, c'est ça le logiciel du maintien de l'ordre à la française, et si on est capable de mettre en péril la vie d'individus qui luttent simplement pour l'eau, pour un simple cratère, à Sainte-Soline, il n'y avait même pas de dégradation à commettre. La bassine, elle n'était pas bâchée. Les machines, elles avaient été enlevées. Donc même ce prétexte de protection des biens ne tient pas. Ben moi, ce que j'espère, et puis ça fait du bien de voir qu'on est encore aussi nombreux à s'intéresser à ça, et puis que l'affaire, elle est loin d'être finie, en fait, c'est qu'on lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que les responsables soient punis, passent devant les institutions, et les responsables, on les connaît, et je vais redire leur nom, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Monsieur Macron, Monsieur Dupuis, Monsieur Vestiaux, numéro 1 de la gendarmerie, ben, tant que ceux-là ne seront pas comparus devant la justice, eh bien la lutte continuera. Ça, c'est l'argumentaire de Darmanin, de dire qu'il voulait empêcher l'installation d'une ZAD. Et je le redis ici haut et fort, il n'a jamais été question d'installer une ZAD dans un cratère au milieu de la plaine et des pesticides.
Du coup, on a parlé des quads et de l'enquête administrative là, de l'IGGN. On a toute une annexe dans le rapport qui démonte point par point cette enquête de l'IGGN, qui du coup conclut à la légitime défense de ce qui est écrit dans ce rapport d'enquête de l'IGGN. Dans les images qu'on a, on ne le constate pas du tout, notamment l'enquête, elle parle d'une nasse, elle parle de cocktails Molotov qui sont lancés, je crois aussi de tirs de mortier. C'est pas du tout ce qui se passe au moment où il y a les tirs de LBD. Le rapport, bon, il fait 164 pages, il fait un peu peur. Une partie qui est intéressante, c'est qu'on a fait le déroulement quasiment minute par minute de ce que c'était Sainte-Soline. Ça vous donnera un peu une idée de ce que c'était Sainte-Soline si vous y étiez pas.
Les deux blessés graves qui se sont retrouvés dans le coma après Sainte-Soline sont donc Serge et Mika, qui prend maintenant la parole au cours de cette réunion du 10 janvier 2026 à Poitiers.
Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Boulet. J'ai été rescapé de Sainte-Soline 2023. 2 ans après, ça va mieux, juste des petits troubles de mémoire. J'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de 14 ans. Ça lui est arrivé, il avait 12 ans. C'était un peu très dur, ça m'a coûté 10 jours de coma, une artère de boucher et 6 mois de rééducation. Les violences policières, il y en a toujours eu, surtout là à Sainte-Soline. Moi, en tant que militant Gilets jaunes, pour moi, je sais que j'ai pris un flashball, même si l'État dit le contraire, car j'ai beaucoup vu les manifestations. Je suis rentré plusieurs fois chez moi blessé, mais je suis toujours rentré chez moi. Je suis parti à Sainte-Soline. Pour l'écologie, je me suis fait taper gratuitement. J'étais avec des gens de la Confédération paysanne. Je regrette rien parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Et ma vie, elle a changé parce que il s'est arrivé tout ça en 2 ans. Et je dénonce les violences policières et que ça continue. Merci à vous.
Question toute simple, c'est le rôle et la toute-puissance des préfets, et notamment la préfète des Deux-Sèvres, qui avait donné des consignes extrêmement claires pour que les véhicules de secours ne puissent pas accéder facilement, puisqu'il fallait qu'ils aient l'autorisation pour pouvoir aller sur la zone où il y avait les personnes blessées. Ça continue toujours, puisqu'en Vienne, on se bagarre aussi contre les bassines, et on voit que la toute-puissance préfectorale continue son travail. Ils arrivent à mettre à genoux à peu près toutes les oppositions. Donc c'est quelque chose qui m'interroge aussi. Les préfets sont-ils au-dessus des lois ?
Moi j'ai fait 6 ans de militant Gilets jaunes, et pour moi je dis oui, les préfets sont au-dessus des lois. Parce que si on aurait toutes les caméras piétons des violences policières qu'il y a eu dans les manifs Gilets jaunes, vous verrez que la police, c'est comme un crime de guerre. Merci.
Moi, j'avais demandé à une avocate un jour, j'ai dit « je comprends pas, le préfet, il arrête pas de prendre des décisions pas légales, on peut pas à un moment donné, comme quand c'est un policier véreux, l'attaquer et qu'il soit plus préfet, quoi. » Et elle s'était marrée, elle m'avait dit « ah non, le préfet, on peut que attaquer ses décisions, on peut pas attaquer sa personne. »
Oui, c'est vrai qu'en maintien de l'ordre, il y a quand même toujours cette question de la place du préfet, notamment pour un autre angle, en amont des rassemblements, c'est aussi toute la question des arrêtés, d'interdiction de manifester. de plus en plus nombreux. On en a vu énormément quand il y a des rassemblements écologiques. On l'a vu énormément pendant les manifestations contre la réforme des retraites en 2023, contre les mouvements de soutien à la Palestine. On a aujourd'hui toute cette compilation d'arrêtés, d'interdiction de manifester. Alors on peut les attaquer, alors on les attaque, ou parfois obtenir la suspension de l'arrêté. Il y a plein d'associations comme la LDH qui essaient d'attaquer. Il y a cette question aussi des arrêtés d'interdiction qui montrent un peu le pouvoir du corps préfectoral sur le droit de manifester en France.
Moi, il y a un truc qui m'a interpellée quand on est allé à Sainte-Soline, c'est qu'on avait participé à un covoiturage au départ d'Auchan Sud pour aller jusqu'à Sainte-Soline. On était, je ne sais pas, une dizaine de voitures. On a été escortés jusqu'au bout par la police, alors que c'était une manifestation interdite. Comment ça se fait que la police faisait dégager les carrefours et nous a accompagnés jusque là-bas pour nous taper dessus?
Madame, vous avez raison, c'est exactement ça. Moi, je suis arrivé avec plusieurs amis à Sainte-Soline. Je suis l'un des derniers arrivés sur le site et je suis l'un des premiers touchés. J'ai deux infirmières libérales que je remercie, Perle et Daphné, qui m'ont sauvé sur place. Et je remercie Joël, que j'ai rencontré grâce à Autopsie d'un carnage qu'on a inauguré en février 2024. Et merci à vous.
À propos du pouvoir des préfets, qu'on pourrait appeler, sans se gêner, un abus de pouvoir, par exemple, lors de la comparution des quatre au palais de justice de Poitiers en appel, le préfet avait interdit le rassemblement entre les grilles du palais et le bâtiment, et qu'il a fallu faire un référé liberté, et nous avons obtenu gain de cause, et le préfet a été condamné, débouté de sa décision. Un référé liberté, ça s'instruit, ça se mène rapidement et ça peut se gagner. Voilà.
Oui, Poitiers-Palestine, la répression devient quasiment une généralité. On a eu, concernant la Palestine, des emprisonnements, des gardes à vue. Il y a des gens qui sont véritablement emprisonniers, comme le représentant d'Urgence Palestine à Lyon. Il y a eu des procédures bâillons, dont celle qui attaque Poitiers-Palestine ici, hein, puisque la présidente a été mise en examen pour apologie du terrorisme. On est également avec des interdictions de manifester, de plus en plus nombreuses. On a une avalanche législative, hein, dont le dernier état est effectivement la loi Hayon, qui envisage de pénaliser la simple évocation de l'antisionisme et de très nombreuses sanctions financières. Poitiers-Palestine, par exemple, s'est vu contrôler ses comptes à la demande de la mairie de Poitiers. Et rappeler que si on est là, c'est que le combat pour la vérité, les libertés d'opinion et d'expression, ça doit être partagé par tous, au risque d'entrer dans une ère de despotisme et de terreur. Je vous remercie.
Jean-Pierre Duteuil, militant et père de Serge, prend le micro.
Il ne faudrait pas qu'on vive cette affaire de Sainte-Soline comme un cas particulier ou comme une bavure. Pour moi, porter plainte, c'est saisir l'occasion de parler de beaucoup d'endroits où la répression se fait quotidienne. C'est la répression qu'il y a eu les dernières années dans les banlieues. Et les gens qui sont morts, je pense à Rémi Fraisse aussi, dans une lutte écologiste, enfin, je pense aussi à Pierre Douillard, qui a perdu un œil, et puis à Adama Traoré, à Naël, etc. Et toutes ces luttes dans les banlieues, ou sur la loi travail, contre la loi travail, ou sur des objectifs de grands travaux, elles éclairent complètement le fait que ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'est pas un particulier, c'est quelque chose d'endémique. Et donc, il ne faut pas se fixer sur la culpabilité ou tel, il faut montrer où est la chaîne de commandement. Mais c'est bel et bien un système que l'on combat. Et moi, si je porte plainte par rapport à Serge, c'est pour combattre un système. Et un système, c'est un système capitaliste. Il ne faut pas le cacher. Je voulais dire aussi que ce n'est pas quelque chose de particulier à la période. Les violences policières, quand j'étais tout petit, il y avait la répression des grèves en 1947, ça a fait 10 morts. sous l'égide de dirigeants qui étaient de couleurs différentes, des socialistes au pouvoir en 1947, qui ont fait tirer sur les ouvriers. On a eu les violences pendant la guerre d'Algérie, mai 68 évidemment, et puis on a eu les ministres Pasqua Tandreau, qui n'était pas tellement mieux que Darmanin. Il y a eu l'épisode Maltikoutsékine, pour en citer que quelques-uns, et puis surtout après, les violences contre les colonisés, entre guillemets. Ben, UVA, c'était quand même Mitterrand qui était au pouvoir. Ça ne dépend pas de la couleur, c'est quelque chose d'endémique, ces violences policières, qui se font régulièrement, non pas effectivement pour défendre un trou vide, mais pour dissuader les gens de manifester. C'est vraiment du terrorisme au sens « restez couchés, ne vous révoltez pas ». Et donc, il faut sortir de cette idée de bavure. Ce ne sont pas des bavures, ce sont des actes complètement conscients qui sont dans une stratégie de domination d'une classe sociale sur une autre. Les victimes, il faut qu'elles cessent d'être victimes, ce ne sont pas seulement des victimes. Tous les gens qui sont tués, blessés, mutilés, cessent justement d'être des victimes quand ils se révoltent. Surtout, cesser d'être des victimes et ne pas fournir ce prétexte de la victimisation. On est en lutte contre les bassines, mais on lutte contre ce monde.
Julien Leguet de Bassines Non Merci reprend la parole.
Le point sur les bassines. Malheureusement, ce qu'on notait et dont on avait pris conscience déjà un petit peu en amont de Sainte-Soline, que de faire des méga-bassines, ce n'était pas qu'une intention pour le Poitou-Charentes. Malheureusement, ça se vérifie aujourd'hui. Nous avons écho de projets qui avancent sur d'autres territoires. Sur le Berry, c'est très sérieux. Il y a un projet de 8 méga-bassines. On ressemble beaucoup aux bassines de chez nous pour le même type d'agriculture. Il y a également des bassines qui pointent à l'horizon dans le Gard et l'Hérault, avec notamment un truc un peu insolite et hautement débile en termes agronomiques, puisqu'il s'agirait d'irriguer de la vigne. Or, s'il y a bien une plante qui est faite pour vivre en milieu méditerranéen, en fait, quand on irrigue de la vigne, on la rend dépendante de l'eau. Au lieu que la vigne aille en profondeur faire son système racinaire et chercher l'eau là où elle est, eh bien, on la rend fragile, puisque dès lors qu'on arrête de l'arroser, ben, elle crève. Il y a également des méga-bassines d'un autre genre. Les JO d'hiver vont commencer en Italie pour pouvoir procéder à l'enneigement artificiel. Les autorités ont recours à la multiplication des méga-bassines des neiges. C'est la même en France pour l'échéance 2030. Et donc, il y a des camarades qui sont également en lutte contre ce type de projet à la montagne. Et puis également, j'ai envie de citer ici les méga-bassines qui sont liées au méga-canal, au projet de méga-canal Seine-Nord, où à la fois, ils veulent construire une méga-bassine de 20 fois la contenance de Sainte-Soline pour mettre de l'eau dans ce canal dont, soyons très clairs, l'objectif n'est certainement pas de diminuer le transport routier, mais bien de fluidifier les échanges internationaux et notamment de squeezer le port du Havre où, au malheur, il y a des cégétistes qui parfois vont bloquer les choses alors qu'au niveau des ports du Nord et de la Hollande, ben, c'est beaucoup plus fluide. Et là, très clairement, un des objectifs avérés, c'est de permettre un exutoire direct, en plus avec l'ouverture des voies du Nord, avec l'Arctique qui font des débouchés à l'international, à la Chine, etc. Des débouchés notamment pour les cultures céréalières de la Beauce. La Seine est bien connectée à ces grands ports, et là il s'agit de faire passer des méga-tankers en fait, sur ces ouvrages-là. Donc le cancer bassine n'est pas soigné. On peut quand même dresser un constat, c'est que ce rapport de force qu'on a été capable de mettre collectivement sur la bassine de Sainte-Soline, elle a quand même eu un effet, en tout cas sur notre territoire, c'est que ce moratoire qu'on réclame depuis 3 ans, ben de fait, il est en place. Aucune nouvelle méga-bassine n'a démarré dans les Deux-Sèvres. En 2017, les ministres de l'Agriculture et tous ceux qui sont succédés imaginaient pouvoir construire 1000 méga-bassines sur une échéance de 5 ans. On a un Premier ministre, Le Cornu, qui ces derniers jours également a fait des déclarations en réponse à la colère agricole autour d'un triplement du fonds hydraulique dédié à la construction de méga-bassines. Et donc il y a un fonds de 60 millions d'euros. L'essentiel des la cinquantaine de projets qui est sur la table, c'est des créations, alors ils disent de stockage d'eau à vocation agricole, de l'eau, pas pour l'agriculture locale, ni pour relocaliser et les emplois agricoles et faire du revenu, mais bien pour l'agro-industrie et les marchés internationaux. Donc ben, évidemment, on en appelle plus que jamais à rester motivé, à rester mobilisé.
Tout à l'heure, quand je parle de terrorisme d'État, c'est tout un attirail dont la vocation a à nous faire taire, à nous rendre impuissants face aux événements. Et ça commence par de simples amendes, parce que vous avez stationné à proximité d'un endroit où il y aura une manifestation interdite. Ça va jusqu'à ce qu'on a vécu à Sainte-Soline. Des hauts dirigeants qui sont capables de donner des ordres mortifères, des ordres qui vont aller dans le sens de la mort. Ce serait illusoire de penser que ce qu'on a vécu là est un cas à part. Il y a une vraie tradition française d'un maintien de l'ordre qui peuvent aller dans le sens d'une très grande violence. Et je voulais ici faire état peut-être d'un des premiers morts de la cause écologique, qui est Vidal Michalon, qui dans les années 70 a été tué à Cresmalville, où une méga mobilisation similaire à celle qu'on a vécue à Sainte-Soline s'est mise en place. En fait, on va retrouver les mêmes éléments qui font système, avec un préfet qui annonce quelques jours avant que les boches débarquent, parce que les militants anti-nuque rejoignaient, comme on a eu la chance à Sainte-Soline, d'avoir le soutien de camarades allemands, italiens, espagnols et même de partout dans le monde. Je mets en regard cette annonce qui a vocation à terrifier les habitants du territoire avec le fameux éco-terroriste dont Gérald Darmanin était le grand promoteur. À Cresmalville, prise au piège dans un fond de vallée avec des gens qui se retrouvent sous une pluie de bombes et donc qui ont généré la mort de Vidal. La mort de Vidal Michalon a eu un effet terrible dans les mouvements antinucléaires français. Et certainement que si le mouvement antinucléaire français en est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire pas très puissant, hein, quand on voit les camarades qui luttent à Bure, ben on n'est pas très nombreux, et même, j'en suis pas, à leur prêter main forte, dans leur fin fond là, de l'Est, etc. Ben moi je pense qu'un Darmanin et ses collègues, quand ils mettent en place les consignes pour Sainte-Soline, ils ont Cresmalville en tête. Ils sont dans une stratégie où on va créer un effet de blast tel que plus personne n'aura envie d'aller manifester dans les plaines des Deux-Sèvres ou du Poitou-Charentes ou ailleurs. Nous avons collectivement fait corps et nous avons donné la plus belle réponse qui soit. C'est à travers toutes ces solidarités qui se sont mises en branle. Et on a la chance ici d'être peut-être entre blancs éduqués, je veux dire comme ça, et donc on fait corps. Malheureusement, il n'y a pas la même solidarité, la même organisation dans les quartiers, et il y a des violences bien supérieures qui sont vécues, il y a des morts dans les quartiers, et on n'est pas à leur côté. Pas assez. L'Alliance, elle n'y est toujours pas. Néanmoins, on peut voir à travers ce qu'a été la suite de la lutte sur les méga-bassines que non, cette stratégie de la terreur et nous écrabouiller, elle n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a imaginé collectivement? Ce truc de fou, du convoi de l'eau, de se mettre en chemin et d'aller titiller les institutions, d'aller à Orléans et à dire à l'agence de l'eau, c'est pas possible, l'argent que vous collectez avec nos factures d'eau ne peut pas servir à détraquer le cycle de l'eau. On a poussé jusqu'au pied de la tour Eiffel, hein, avant la CR et compagnie. Et tout ça dans la joie, et dans la force, et dans l'effort, et dans la solidarité. On se posait également la question de savoir si on relançait un appel international à mobilisation, comment ça répondrait. On a collectivement imaginé ce village de l'eau qui est arrivé en 2024. Et une nouvelle fois, on a fait corps, on a été très nombreux, on s'est encore donné les moyens d'aller à proximité des lieux de pouvoir ou des lieux où l'agro-industrie, qui est clairement le grand promoteur et le grand profiteur des méga-bassines, on les a ciblés, on y est allé. Je crois maintenant en connaissance de cause. Sainte-Soline 2, je sais bien qu'on ne part pas à une promenade de santé. On a vécu Sainte-Soline 1 avant, on a vu le dispositif et ce qu'ils étaient capables de faire. Et je vous avoue que très sincèrement, mais c'est certainement de la naïveté, jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que des ordres visant à nous tuer seraient donnés et exécutés. Maintenant qu'on sait que nos gouvernants et les sbires qui sont sous leurs ordres et qui leur obéissent sont capables de ça, eh bien évidemment qu'on doit reconsidérer nos stratégies, faire en sorte de ne pas s'exposer aussi facilement à cette violence policière. Ça signifie qu'on a appris à se déplacer ensemble, par des systèmes de mains, de signaux, etc., à faire corps. On a appris aussi que ben, les camarades Black Bloc, dont on n'arrête pas de nous dire que ce sont d'affreux tueurs de flics, ben, en fait, ce n'est pas du tout leur logiciel. Au contraire, c'est plutôt de protéger les cortèges et de faire en sorte que les plus vulnérables d'entre nous puissent exercer ce droit fondamental qu'est le droit à s'exprimer et à manifester. On a su faire preuve d'une grande solidarité. Il faut que ça continue. parce que le rouleau compresseur il continue à s'activer. Il y a mille manières de s'investir dans une lutte. Et on a nos cultures, nos faiblesses, nos courages, etc. Et il n'y a pas une manière plus noble que l'autre. On s'organise ensemble, des cantines,